Il est exactement 18h dans ce studio, même heure partout au Mali. Auditeurs et auditrices, bienvenue sur votre émission humanitaire Faboudirène. Place au titre.
Perdre son époux n'est point une fatalité. Cependant, certaines veuves vivent difficilement après la mort de leur conjoint.
Des ONG orientent plus leur aide vers les veuves et les orphelins. Parmi elles, Solidaris 223, nous recevons aujourd'hui son secrétaire général.
Et dans cette émission, nous allons à la découverte d'un modèle de réussite à Yoroso.
Dramane Meiga et Lala Jahara Touré pour le développement de ce titre. Gagné Kanté à la partie technique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Lala, bonsoir.
Bonsoir Dramane.
Comment ça va?
Je vais bien et toi?
La semaine et le week-end, moi je vais bien aussi.
Hein. Le week-end là, moi j'ai beaucoup bougé. Hein. Je ne sais pas pour toi, mais
ce moi j'ai fait le show. La semaine s'annonce vraiment bien dans ce cas.
Ah ben ouais, je suis d'attaque pour commencer une très belle semaine.
D'accord, comme on le disait tout de suite dans les titres, les veuves constituent une couche très vulnérable dans le pays. Elles sont confrontées à plusieurs problèmes dans la société.
Tout à fait Dramane, certaines d'entre elles se retrouvent souvent seules à s'occuper des enfants sans moyens de subsistance suffisants. Sans soutien de la famille du défunt, elles doivent lutter pour leur propre survie et celle de leurs enfants.
Contrairement aux veuves des civils, certaines veuves des militaires se réjouissent aujourd'hui de l'assistance que les autorités actuelles leur apportent.
Notre reporter Kwan Diarra nous plonge dans le vécu des veuves au Mali. Suivons ensemble.
Être veuve très jeune n'est le souhait d'aucune femme, mais parfois la vie impose ses propres réalités. Elles sont nombreuses au Mali, les femmes qui perdent très tôt leur conjoint et se retrouvent seules à s'occuper des enfants orphelins de père. Fatoumata Sanogo est une veuve vivant à Bamako, qui se retrouve dans cette situation très compliquée. Depuis le décès de son mari, elle vit seule avec ses 7 enfants dans une maison en location.
Je vis dans des conditions très difficiles parce que mon mari est décédé, me laisser seule en location avec nos 7 enfants. Payer les frais de scolarité, le loyer et avoir à manger, ce n'est pas du tout facile pour nous. Quand tu demandes aux proches, le maximum qu'on te donne, c'est 2000 francs. Sachant qu'on doit payer le loyer, l'électricité et l'eau, c'est vraiment compliqué pour nous. Mon souhait est que le gouvernement nous vienne en aide.
Fanta Traoré est une veuve vivant à Yoroso dans la région de Koutiala. Assise à côté de ses enfants et d'une voix remplie de tristesse, elle nous explique sa situation. Fanta Traoré en appelle aux bonnes volontés pour assister les veuves.
Mon mari est décédé. Depuis ces jours, c'est moi qui suis chargée d'assurer le besoin des enfants. Il est parti me laisser avec les enfants qui sont tous très jeunes. Si ton mari décède, tu dois te confier aux bonnes personnes et à Dieu. Si ce n'est pas eux, je n'ai pas d'autre moyen. Je demande à Dieu de faire en sorte que la bonne volonté soit à nos côtés pour nous aider. Comment prendre bien soin de mes enfants est ma principale préoccupation.
Dans la ville de Badiangra, le constat n'est pas du tout reluisant pour les veuves de la région. Elles souffrent et manquent de soutien à la hauteur des difficultés. Toutes des jeunes vêtues, le coude droit sur la cuisse et la tête soutenue par la main, Assitan Kassogué a perdu son mari lors d'une attaque terroriste dans son village. Aujourd'hui, pour elle, avoir les 3 repas journaliers pour cette mère de famille est difficile.
Je n'ai personne pour m'aider à nourrir les enfants. Je suis dans plusieurs problèmes actuellement. Seul le jeune frère de mon défunt mari est ici et il a plusieurs charges également. Ce que je fais pour prendre soin de mes enfants sont faire la lessive dans les différentes familles, piler le mil et plusieurs autres petites activités.
Akai, certaines veuves vivent également dans une situation préoccupante. C'est le cas de Fanta Djagité qui s'est occupée toute seule des enfants depuis le décès de son mari.
J'ai perdu mon mari il y a de cela 17 ans quand notre fils n'avait qu'un an. J'ai eu plusieurs difficultés après le décès de mon mari dans la prise en charge des enfants. Si tu n'as personne pour te soutenir, c'est compliqué. Perdre son congé n'est pas du tout facile pour la femme dans la société.
Au centre du pays, notamment dans le cercle de Yuwaru, les veuves sont parfois obligées de se lancer dans les petites activités génératrices des revenus pour pouvoir nourrir les enfants. Djeneba Djenta demande aux autorités, mais aussi aux bonnes volontés, de ne pas oublier les veuves et les orphelins, car selon elles, il est difficile pour elles de prendre soin convenablement des enfants sans une assistance.
Mon mari est décédé, il était fonctionnaire. Nous avons eu 2 enfants ensemble. Après son décès, nous avons payé plus de 50 000 francs pour régulariser ses papiers sans succès. De son décès à nos jours, c'est vraiment compliqué pour nous. Seules les personnes de bonne volonté nous viennent en aide. Nous comptons sur Dieu et les hommes pour nous aider, sinon c'est difficile pour nous. Je fais mes petites activités comme la vente du charbon et du savon pour survivre.
Contrairement à toutes celles qui viennent de s'exprimer, la présidente de la Fédération des associations des veuves de militaires et paramilitaires du Mali s'est réjouie des conditions de vie des veuves militaires. Madame Keïta Djenaba Keïta affirme avec sourire que les quelques 900 veuves militaires du camp militaire de Kati sont bien entretenues par les autorités.
Nous pouvons dire Dieu merci, nous sommes satisfaites. Depuis que notre fils Assimi Goïta est devenu président, nous n'avons pas eu de problème. La pension, la nourriture, en tout cas, nous les veuves militaires, nous sommes contentes aujourd'hui. Dans le temps, nous avons vécu plusieurs problèmes, mais maintenant, on peut dire Dieu merci.
Enfin, il est important que nous prenions tous conscience que l'assistance des veuves durant les épreuves est une affaire qui nous concerne tous. Elles ont besoin de plus de considération et d'assistance pour créer un meilleur avenir pour les orphelins.
Kwan Djara, avec l'appui de nos collègues à l'intérieur du pays. Là, nous venons d'écouter des témoignages très émouvants.
Tout à fait, Raman. Certaines de ces veuves vivent dans la précarité. Elles se battent jour et nuit pour survivre. Elles demandent l'appui des bonnes volontés pour vivre dans la dignité et subvenir aux besoins de leurs enfants orphelins de père.
Pour soulager ces dames, certaines organisations ont fait de l'appui des veuves leur priorité. Parmi elles, Solidaris 1023. Son secrétaire général, Hallachi Meiga, est notre invité aujourd'hui. Bonsoir.
Bonsoir, Adraman.
Monsieur Meiga, ça va bien?
Oui, ça va, je me porte bien.
Et la famille, les activités?
Oui, la famille, les activités, ça va.
Nous venons d'écouter ensemble tout de suite des témoignages. Avez-vous des choses à ajouter, vous qui êtes directement en contact avec certaines d'entre ces veuves?
Merci déjà pour l'invitation. Je dirais que c'est vrai, c'est des témoignages émouvants qui sont presque mon quotidien. En fait, j'ai l'impression que c'est avec les mêmes personnes avec qui j'échange ici à Bamako, qui se retrouvent à Banyagara, à Bankas, qui disent les mêmes choses. Donc les veuves au Mali vivent les mêmes réalités, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Donc c'est vraiment, j'ai ça au quotidien.
D'accord, M. Meiga, on va dire que c'est le quotidien de ces femmes, hein, les difficultés. Quelles sont les statistiques à votre niveau? Avez-vous un chiffre concernant le nombre de veuves et à quelle date?
Ok, merci. Avant de répondre à la question, je vais peut-être un peu dire pour vos auditeurs c'est quoi Solidaris. Solidaris, en fait, c'est une association humanitaire. Solidaris, c'est le diminutif du terme solidarité. Donc, c'est ça qui nous incarne, au fait, que nous sommes sur les questions de solidarité. C'est une association qui a deux cibles majeures, la femme et l'enfant. Toutes nos activités tournent autour de la femme et de l'enfant.
Exactement.
Les activités que nous menons, essentiellement, c'est la femme. C'est sur les questions de droits de la femme et les questions de protection de l'enfant. Nous avons des projets qui sont, chaque année, nous faisons, peut-être c'est les activités qui changent, c'est le contenu des activités qui changent, mais c'est toujours la même chose. Ramadan solidaire, c'est un projet qui permet d'apporter de l'assistance aux veuves durant le mois de Ramadan. Il y a un projet qu'on appelle le Sourd de Mariam Diallo. C'est une activité qui tourne autour de ces questions sur les questions de droits de la femme. Nous avons un projet qu'on appelle Un enfant, un sourire. C'est un projet qui nous permet d'être en activité avec les orphelinats pour aider à ce que ces orphelinats puissent avoir de quoi nourrir les enfants et autres. Et un dernier sur les questions santé qu'on appelle le sourd de Fatoumata Chaban. C'est une question c'est sur les questions du cancer, la lutte contre le cancer. Nous sommes là-dedans. C'est toujours les femmes. Et également, on a ce qu'on appelle la scolarisation, où nous scolarisons, nous donnons des kits scolaires, nous faisons également le parrainage des enfants. Mais toujours les bénéfices, ce sont ces familles-là. Maintenant, en parlant de statistiques au Mali, c'est très compliqué aujourd'hui de dire qu'on a pu avoir des données qu'on peut dire fiables par rapport aux statistiques. Je sais que selon le RGPH 2009, on disait là-dedans que pour les plus de 12 ans et plus, les veuves constituent environ 5,7 ou 8% des veuves, contrairement aux hommes qui étaient de 0,7%. Donc, pour vous dire que quand on parle en termes de nombre de veuves, ils sont très, très nombreuses. Ça, franchement, ils sont nombreux. Donc, c'est très difficile pour moi aujourd'hui de dire que voilà des statistiques récentes. On sait très bien que le contexte de la culture du Mali fait que tu as des hommes polygames. Quand ils décèdent, il y a forcément deux ou trois veuves en même temps, contrairement aux hommes que qu'un homme meurt sur le temps. Tu vois? Donc, c'est vraiment difficile de dire qu'il y a des statistiques qui sont actuelles. Mais à ma disposition, ça, je n'en ai pas problème.
Mais à votre niveau, vous prenez en charge combien environ?
Nous prenons en charge de façon... C'est que je peux te dire que nous avons à peu près une vingtaine que nous assistons constamment. Ça, c'est en dehors de ceux que nous arrivons à aider de façon ponctuelle. C'est-à-dire une situation se présente et qu'il faut apporter de l'aide. Et l'aide qu'on apporte autour de certains aspects, c'est les questions de l'éducation des enfants. Et généralement, il y a des familles, ils ont des enfants, la scolarité des enfants. Donc, pour les enfants, nous proposons généralement le parrainage. Et avant chaque entrée scolaire, nous donnons également les fournitures scolaires. Il y a les questions de santé des enfants et même de la femme en question. Aidée également par généralement le service de l'ANAM et le service de développement social. Généralement, nous orientons les familles vers le service de développement social à partir de la mairie qui les déclare des familles indigentes. Donc, du coup, ils arrivent à besoin de ce qu'on appelle le régime santé qu'on appelle le RAMED. Ça, c'est au niveau de santé. L'autre question qui est souvent très difficile pour nous de gérer par rapport à ces familles, c'est les questions de loyer. Les questions de loyer, j'ai deux ou trois familles où j'ai leur message à l'instant qui sont permanents sous menace d'être expulsés. Par rapport à l'expulsion des enfants à l'école, il arrive que souvent on négocie avec les écoles pour leur dire, permettez-nous un moment, on va payer. Mais ceux qui donnent leur maison en location, il est très difficile. Quand ils négocient avec eux, après c'est toi qui ramasses les pots cassés. Ouais, donc à ce niveau-là, c'est très difficile sur les questions de loyer. Maintenant, vient les questions de nourriture. Sur les questions de nourriture, nous arrivons à jongler avec des amis, souvent des amis commerçants qui arrivent à donner un sac, voilà, ainsi de suite.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Halachi Maïga. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous partons à Yoroso à la découverte de notre modèle de réussite.
Et oui, Draman, il s'agit d'une femme déplacée du centre du pays à cause de la crise sécuritaire. Elle s'est retrouvée dans un camp de déplacés à Yoroso. Mère de plusieurs enfants, cette brave dame se bat chaque jour pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants.
Un reportage signé Khalifa Goïta.
Il est 8h et Fatmata Tessoué est déjà dans la famille Goïta à Yoroso pour la lessive. Et c'est après avoir marché 3 km. De famille en famille, cette déplacée interne tape presque à toutes les portes pour chercher des clients. Un travail qui est indispensable pour sa famille.
J'ai quitté Bankas pour Yoroso à cause de tout ce que vous savez déjà. Je lave les habits des gens et je me lève très tôt souvent. La raison qui me pousse à faire ce travail est que nous avons du mal à avoir de quoi manger. Pourtant, j'ai des enfants. Mon mari travaille au champ. Ce n'est pas facile. Je m'entends bien avec les gens.
Madame Guita Kadi Dao est une de ses clientes. Ces deux dames collaborent depuis un certain temps. Elles s'allient la résilience de cette lavandière.
Elle lave bien les habits, c'est pourquoi je l'apprécie et l'invite à laver les nôtres. Elle fait des entretiens aussi et je la donne son argent. Elle peut faire 3 à 4 heures à faire la lessive. Elle est moins chère. Souvent, même elle ne me dit pas de prix. Cela n'empêche, je la paye quand même. Ce que je peux dire aux personnes déplacées, c'est de ne pas croiser les bras.
Fatmata Tessoué est aussi sollicitée par des célibataires pour la même cause dans la ville de Yoroso. Beaucoup d'entre eux profitent de son service. Parmi eux, Aboubakar Aïdara. Il pense que tous les déplacés internes doivent suivre l'exemple de Fatmata.
Franchement, elle fait un travail impeccable, sérieuse dans son travail. Elle répond toujours à l'appel. Le prix, je dirais qu'elle est abordable parce que laver même les habits, c'est pas facile. C'est un travail noble, un travail vraiment encourageant. J'ai un message à lancer à tous les déplacés, qu'ils ne baissent pas le bras, donc qu'ils ne mettent pas en tête que tout est perdu, que l'espoir est perdu. Il ne faut pas avoir honte de faire un travail.
Justement, Fatoumata Tessougué arrive à joindre les deux bouts grâce à ses propres efforts.
La lessive m'arrange beaucoup. Chez certaines personnes, par jour, je peux avoir 2000 francs et chez d'autres, 1000 francs ou 1500 francs CFA. Avec ce que je gagne, je paie du riz, les condiments et je prépare pour mes enfants. J'ai 7 enfants, 4 garçons et 3 filles.
Néanmoins, elle regrette certaines difficultés liées à cette activité, notamment le non-paiement de ses services par certains clients. Son rêve est de retourner dans sa localité d'origine très prochainement.
Malgré les difficultés qu'elle traverse, certaines personnes déplacées ne baissent pas du tout les bras à Lalla.
Fatoumata est un exemple de résilience et de détermination à Ndraman. Elle est un modèle inspirant à suivre et à encourager, comme l'a dit l'un de ses clients.
Monsieur Meiga, un mot pour cette dame.
Elle est encouragée et vraiment toutes les veuves en mesure, en capacité de travail, doivent initier des activités de ce genre. Nous qui sommes des organisations qui les arrivent en appui, c'est un grand. Il arrive que d'autres même initient des activités génératrices de revenus qui ne se trouvent pas, qu'on arrive à les orienter vers d'autres secteurs d'activité leur permettant de pouvoir s'en sortir, comme nous sommes aussi sur les questions de d'AGR par rapport à ça. Nous avons un cas d'AGR qui, une première fois, on a financé, ça n'a pas marché. La deuxième fois qu'on a financé, c'est là, ça a marché. Mais ce n'est pas des financements avec des millions, c'est financement de 50 000 francs. Aujourd'hui, elle s'en sort, elle est complètement autonome. Elle est dans la fabrication de la pâte alimentaire qu'elle fait chaque fin du mois. C'est nous-mêmes qui allons au marché acheter le matériel et tout, parce qu'il y a un point qui est très difficile. Quand il y a une veuve qui a 5-6 enfants qui n'ont pas mangé, tu vas la financer pour une AGR.
Une activité génératrice
de revenus. C'est très difficile de mettre l'argent de l'AGR.
Oui, parce qu'elle va aller acheter à manger d'abord.
Ouais. Donc, tu vois, donc, ce qui fait que leurs activités de génératrice de revenus, souvent, ils ont du mal à mettre sur place.
Nous vous rappelons que vous suivez Studio Tamani sur les antennes de nos radios partenaires à travers le pays et sur nos différentes plateformes digitales.
Alors, Monsieur Maïga, comment vous faites pour localiser vos cibles, pour leur apporter votre aide?
Pratiquement, les 99% de nos cibles, ce n'est pas nous qui les ciblons, c'est elles qui nous ciblent. Ils sont orientés vers nous à travers des amis, à travers des parents qui nous orientent vers nous pour dire « Ah, il y a une association qui est là qui peut aider ». Et naturellement, quand ces personnes viennent vers nous, le premier travail qu'on fait, c'est de les rassurer, c'est de les accompagner, parce qu'on sait que personne à mesure de pouvoir faire quelque chose ne s'oriente vers une organisation pour demander de l'aide. Elles vivent extrêmement difficile et souvent aussi les problèmes que ces femmes vivent sont différents des uns des autres. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Il y a même une catégorie que nous considérons comme veuves mais qui ne sont pas veuves. Je ne sais pas si le phénomène est ancien ou bien c'est maintenant que c'est d'autres. Ceux que leur famille, leur mari disparaissent. On a deux ou trois familles où les maris se lèvent un beau jour et disparaissent.
Ils partent en voyage
ou... Ils partent. Les femmes n'ont aucune idée de où se trouve leur mari.
Et vous mettez ces dames dans quelle catégorie?
On est obligé de mettre dans la catégorie de veuve quand ton mari disparaît à 5 ans, 6 ans. Nous, actuellement, on a trois qu'on accompagne dans trois quartiers différents de Bamako. La plupart, on considère qu'ils sont partis en aventure.
Alors, comment est-ce que ces dames entre en contact avec vous? Par exemple, une veuve aujourd'hui qui vous entend à travers les zones de Studio Tamani et qui n'était jamais au courant peut-être de Solidaris des ans 23 et qui souhaite aussi bénéficier de votre appui. Comment est-ce qu'elle doit faire?
Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, nous existons. Donc, vous voulez sur Facebook, sur WhatsApp, notre numéro sur WhatsApp et ainsi de suite, comme j'ai dit. Et la plupart des temps aussi, nous avons également des associations partenaires avec qui nous travaillons, qui ne sont pas forcément sur ces questions-là, aussi qui orientent les personnes vers chez nous. J'ai pris tout à l'heure à l'exemple de ceux qui ont leur femme. Il y a autre catégorie qui, c'est des veuves, leurs maris sont décédés et que naturellement les enfants ont souvent droit à leur pension. Mais il se trouve que le mari, la famille du mari, se trouve à dire que bon, il y a la maman du mari, de son feu mari qui est là, qui n'a pas les moyens, et que la famille priorise la maman. Et donc la femme se retrouve seule avec ses enfants, malgré que elle a droit à la pension de son mari, à ce cas-là. Nous avons aussi un dernier cas, des cas où des gens arrivent à donner souvent leur famille, leur cour ou leur concession à des familles gratuitement. Ils sont là-dedans, ils ont des difficultés, nous saisissent, on a besoin de toilettes, on fait tout. Dès que tout ça là, on crée toutes ces conditions-là, et bien les propriétaires des maisons viennent réclamer leur maison. On a eu ces cas-là aussi.
D'accord. Mais et votre système de partenariat, comment est-ce que vous démarchez les personnes de bonne volonté et notamment aussi l'État?
Il y a l'État, on pas pratiquement de démarche de l'État, mais nous avons quand même été reçus en audience par la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille. Nous avons longuement échangé, elle nous a ouvert toutes ses portes. Également, elle a mis ses services à disposition pour nous accompagner. Mais comme j'ai dit, on sait que la réalité, c'est que c'est beaucoup de choses, c'est des questions de financement. Donc si le financement n'y est pas, ça va être un peu compliqué. Par rapport à d'autres partenaires, on a également, pour, comme j'ai dit, les questions de santé, nous sommes aussi avec le ministère de la Santé. Nous sommes également avec, ça c'est pour les questions de santé, avec le service oncologie du Point G, le service gynéco de Gabriel Touré, qui nous accompagne énormément. Il y a également l'hôtel Salam qui nous accompagne aussi sur les questions de cancer à travers des conférences que nous animons un peu tout.
Merci beaucoup à vous, monsieur Hallach Meïga, d'avoir accepté notre invitation. Mais vous restez avec nous pour la suite de l'émission. À présent, nous allons souffler un peu en musique.
Place à la rubrique artiste de la semaine. Nous sommes avec l'un des membres du duo Djeneba et Fusco. Ces couples de la première région du Mali est connu à travers le monde entier. Les deux ont plusieurs morceaux en duo à leur actif.
Absents sur la scène ces derniers temps, Djeneba et Fusco annoncent leur retour bientôt. Aïssata Diarra a échangé avec Sissoko Fusco. Suivons.
Fusco et Djeneba, même si Djeneba n'est pas là, Fusco et Djeneba, vous évoluez dans quoi?
Toujours dans la musique, je peux dire. On n'a qu'un seul album, on a plus de 100 morceaux. On est nés dedans, de grand-père en père et de père en fils. La musique pour nous, c'est comme un petit jeu. Voilà, parce que quand c'est inné chez toi, personne ne peut de débarrasser. Donc maintenant, Fusco et Djenaba, nous sommes en pleine préparation. Ça va venir. Ça va venir. C'est juste une question de temps. On a eu tellement de choses, ma soeur, franchement, tu ne peux pas imaginer. Quoi. Sinon, Fusco et Djenaba est toujours là et on est prêt maintenant à montrer notre qualité aux Maliens. Et nous, très bien, même à Tony Mandian. Vous allez voir. Le problème de nous, les artistes, ou les Nyamakala, parce que Djelia, on est artistia, Moro, ma femme, les gens n'ont pas compris. Ça fait deux. C'est deux choses différentes. Le Djeli, comme je t'ai dit, comme je t'avais dit là, c'est de grand-père en père et de père en fils. Mais l'artiste, ça, tu peux apprendre à l'école, ou je sais pas, tu peux choisir peut-être dans la rue, comme tu veux. Voilà. Maintenant, ce que moi je vais donner comme conseil, qu'on sache que nous sommes des dignes fils de ce pays. Toi et moi, on peut être amis. Il peut y avoir des conflits entre nous, mais cela ne veut pas dire que moi je te manque de respect ou que tu manques de respect. Non, non, non. On se dit la vérité, mais après, ainsi va la vie. Mais on ne doit pas se dire qu'on est artiste et qu'on se permet de faire tout. Non, non, non. Vraiment, moi je demande aux jeunes artistes d'être eux-mêmes, de ne pas trop dépasser les bornes et de rester dans le cadre artistique. Avant nous, ce n'était pas comme ça.
Alors avant de se quitter, est-ce que Fusco peut nous faire un petit acapella, même si Djenaba n'est pas là?
Kontenina kusa bota sa verwale kusa yombo homaloni kenyo be mone dunyara bala kusa hofindi ni malo be mone dunyara bala kusa halingo muzuki lusi namuta kangala jamu sinamuta tekese jamu sinamuta sinkala jamu sinamuta tentulu mambesi jotamani lema kosa yowa.
Monsieur Meiga, vous écoutez souvent de la musique?
Oui, je suis un grand fan de la musique, un grand consommateur de la musique, madame.
Et vous connaissez Fusco Djenaba?
Oui, je connais, oui.
Ah, d'accord.
C'est vrai que ça fait longtemps que je n'entends pas leur musique, mais...
Ah, ils disent qu'ils seront là bientôt, qu'ils vont retourner sur scène bientôt.
C'est une bonne nouvelle pour nous, alors.
Là.
Ah, ça fait partie de... Ils font partie, on va dire, de mes chanteurs préférés.
Ah oui?
Tu m'entends dire chantonner tout de suite.
Ah oui?
c'est un morceau que j'affectionne particulièrement, je ne sais pas pourquoi, à cause du rythme peut-être. C'est très posé.
D'accord, de rubrique en rubrique, nous partons vers notre dernière rubrique de cette émission. Alors, l'entraide est le point de départ de tous les progrès. C'est notre citation du jour, Lala.
Et c'est dans le cadre de la rubrique Proverbe de la semaine Draman El-Ed d'Auguste Comte. Que pensent les populations de ce passage? Écoutons ces avis recueillis par Kwan Diarra.
On a besoin de s'aider, on a mutuellement pour progresser. Les plus pauvres sont les plus vulnérables, ils ont plus besoin d'aide visiblement que les plus riches. Donc les plus riches se doivent de venir en aide aux plus pauvres.
Moi je pense que par rapport à la situation de Comte, Auguste Comte, l'entraide
est le point de départ,
de toute société et de tout progrès. Même les grandes sociétés qui sont parvenues à se hisser sur les autres, ont été aidés ou ont reçu d'autres technologies de la part d'autres sociétés pour qu'ils puissent eux aussi démarrer. Moi, je pense que c'est une situation valable et c'est compréhensible aussi.
Dans une société, il faut que les personnes soient solidaires entre eux. Donc, c'est ça que moi, j'ai compris. L'importance même, ça dit, de la solidarité en société.
Ouais, ça veut dire qu'aucune société ne peut se construire, ne peut avancer sans l'entraide. Ça, c'est depuis l'histoire des sociétés anciennes, depuis la Grèce antique, depuis l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana. On voit les sociétés qui sont ensemble s'entraident pour progresser, pour aller de l'avant.
C'est là une importance dans la société. Les gens doivent s'aider mutuellement. Si on voit même la société, les gens doivent s'aider mutuellement pour lutter contre les catastrophes naturelles et les catastrophes humaines. Quand je parle de catastrophes naturelles, ça peut être... les inondations.
Oui, bon, à mon avis, il s'agit de ça. Oui, la solidarité au sein de la société. Parce que s'il y a l'entraide, il y a progrès, selon moi. Quand il y a l'entraide, on peut dire que la société évoluera.
Et en Afrique aussi, ça traduit nos cohésions sociales, plus précisément. Donc, Personne ne peut rester à marge du dos, comme disait Sérou Bagnan aussi. L'homme vient entre les mains des hommes et part entre leurs mains. Donc l'entraide est nécessaire. Si tu n'acceptes pas l'aide de ton prochain, à ta mort, tu ne pourras rien faire.
L'aide, l'entraide, ça doit être la devise des ONG.
Non, pas que la devise des ONG, c'est une des valeurs fondamentales de notre société. Notre société est basée sur l'entraide, sur la solidarité. C'est ce qui fait nous des humains en réalité. Sans solidarité, personne ne peut tenir tout seul. Hein.
Sans solidarité, personne ne peut tenir tout seul.
Ça, c'est vrai, Draman.
Et c'est sur ces mots que prend fin cette émission qui vous a été présentée par Draman Meiga et Lalla Diahara Touré. Vous pouvez réécouter cette production et tant d'autres sur notre site web www.studiotamani.org.
Grand merci aux fidèles de nos programmes partout au Mali et dans le monde. Ne décrochez pas, car tout de suite, la version en langue nationale Bambara.